Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo. Micro-Rebelle Hebdo, c'est l'émission hebdomadaire de Micro-Rebelle, Micro-Rebelle, la web radio associative. La web radio associative du bassin minier notamment et qui souhaite vous évoquer l'actualité, l'actualité au plus près des gens, l'actualité des luttes et des alternatives politiques et sociales. Alors chaque semaine, Micro-Rebelle Hebdo est diffusé sur le site internet de notre web radio, micro-rebelle.fr, et chez nos amis de PFM 99.9. Donc c'est le mardi à 15h et rediffusion le samedi à 7h30 et le dimanche soir à minuit. Événements qui nous ont marqués dans la récente période, il y a un événement assez dramatique, c'est le suicide d'un jeune migrant de 25 ans, un jeune migrant qui était à l'origine au camp vietnamien de Angres. Alors on va commencer par faire un petit historique hein, de ce camp vietnamien de Angres. Alors c'est un camp qui existe depuis plus de 10 ans. Hein, au départ, c'était un camp qui était au milieu de nulle part en quelque sorte. Hein, il était sur un terrain vague qui s'appelait le camp des vaches hein, à Angres. Ces migrants, donc, ils souhaitent partir en Angleterre. Et donc, il y a à peu près une petite dizaine d'années, le collectif Fraternité Migrants Bassin Minier 62 s'est créé, notamment pour s'opposer aux expulsions dont étaient victimes assez systématiquement les migrants vietnamiens. Alors, notamment, hein, alors que Besson était ministre de l'Intérieur de Sarkozy. Il y a eu une grande expulsion qui a été mise en œuvre par la BAC et la police. Et à cette occasion, le collectif Fraternité Migrants Bassin Minier 62 a installé sur la place hein, du village, sur la place de Angres, hein, au centre de Angres, ce qu'on appelait le camp Besson, avec l'ensemble des Vietnamiens qui étaient installés là. Et là, ça a été le début un petit peu d'une grande mobilisation en faveur des migrants vietnamiens et contre les interventions policières. Alors, suite à cette expulsion, il faut savoir que régulièrement il y a des expulsions qui sont demandées concernant les migrants vietnamiens, donc des expulsions du camp, mais les migrants ne sont pas renvoyés au Vietnam. Hein. Les migrants restent en France puisque le Vietnam ne les accueille pas en retour. Alors, suite à cette expulsion, donc certains migrants ont été emprisonnés puis systématiquement relâchés. Les migrants ont quitté le camp des vaches et se sont installés dans un bois qui, il faut le reconnaître, était un véritable cloaque. Hein. C'était la pluie, des inondations, et c'était vraiment des conditions de vie très, très difficiles. Et enfin, hein, toujours du fait de l'action du collectif, les migrants ont pu s'installer sur l'emplacement des services techniques avec l'approbation de la mairie de Angres. Et donc régulièrement, il y a des descentes de police, hein, des descentes de la BAC, pour démanteler les filières de passage en Grande-Bretagne des migrants vietnamiens. Alors justement, on va indiquer quelques mots sur l'immigration vietnamienne, hein, qui est de passage à Angres vers la Grande-Bretagne. Donc les migrants vietnamiens, les Vietnamiens et les Vietnamiennes, hein, parce qu'il y a aussi des jeunes filles et des femmes, les migrants vietnamiennes et vietnamiens qui sont à Angres viennent de la même région du Vietnam, hein, c'est le centre du Vietnam. C'est une région très pauvre qui a été saccagée par les guerres, hein, notamment les guerres menées par la France, hein, dans un premier temps, et puis ensuite par l'armée américaine. Et donc cette région du Vietnam, elle a été complètement dévastée, hein, elle a été arrosée de napalm, d'agents orange, et c'est une région qui vit un phénomène de très grande pauvreté. Et donc à partir de là, se sont installées des filières d'immigration. Alors vu du point de vue de la filière d'immigration, qui est d'origine mafieuse, hein, en quelque sorte, sont des gens qui profitent de la misère. Hein. L'idée, c'est d'envoyer en Grande-Bretagne des migrantes et des migrants vietnamiens. C'est ni plus ni moins une forme de traite d'êtres humains. Hein. Et donc, celles et ceux qui arrivent en Angleterre, eh bien, En gros, elles sont soumises à trois débouchés, si on peut parler ainsi. Premièrement, la prostitution. Deuxièmement, le travail dans des ongleries. Et enfin, le travail dans des entrepôts de cannabis. Donc ça, c'est en quelque sorte les débouchés qui sont proposés aux migrants qui transitent par Angres. Il y a des rapports très précis à ce sujet-là. Et du côté des migrants des migrants eux-mêmes, donc pas du côté de la filière, mais du côté des migrants, il ne s'agit pas de fuir en Angleterre. Autrement dit, toutes et tous souhaitent revenir au Vietnam. Le collectif Fraternité Migrants connaît bien les familles, les jeunes qui sont à Angres, au camp. Et donc, ils peuvent témoigner du fait qu'il ne s'agit pas de, contrairement à d'autres immigrations, il ne s'agit pas de s'installer en Angleterre, mais il s'agit d'aller gagner de l'argent et revenir au Vietnam après avoir envoyé de l'argent à leur famille. Donc, leur souhait, c'est renvoyer de l'argent pour payer leur passage, pour permettre à la famille de s'en sortir. Par exemple, pour acheter un commerce et avoir d'autres moyens de subsistance là-bas, localement, au Vietnam. Donc, on a une véritable exploitation de la misère, hein, qui profite à quelques-uns, qui profite à des mafias internationales, qui profite à des proxénètes en Grande-Bretagne, qui profite à des patrons, hein, on parlait des ongleries en Grande-Bretagne, qui profite à des trafiquants de cannabis. Ceux qu'on appelle les passeurs, hein, les organisateurs de la filière, ne sont pas sur le camp d'Angres. Sur le camp d'Angres, il y a des jeunes, des moins jeunes, hein, des hommes, des femmes. Chaque nuit, ils tentent de passer dans des camions, pas très loin du camp. Il y a une station-service, hein, sur l'autoroute qui mène à Calais. Donc ils tentent de monter dans des camions. Certains d'entre eux ferment les portes de ces camions. D'autres téléphonent au contact pour indiquer qu'un passage a réussi ou pas. Mais pour la police, pour la BAC, tout ça, c'est de l'aide au passage. Autrement dit, le fait de fermer la porte d'un camion, le fait de gérer des appels téléphoniques, c'est de l'aide au passage. Et donc, régulièrement, la police débarque au camp, arrête plusieurs personnes. À chaque fois, ils sont relâchés. Quelques-uns sont gardés en prison en attente de jugement. Et les organisateurs de la filière, eux, hein, qui ne sont pas au camp, ne sont jamais inquiétés. Alors évidemment, les premiers responsables, ceux qui ont dévasté le Vietnam, ne sont pas inquiétés non plus. Les responsables de la misère au Vietnam ne sont pas inquiétés. Pas plus que les proxénètes en Grande-Bretagne, ni les patrons des ongleries, ni les réseaux de trafic de cannabis. Les seuls qui sont inquiétés, ce sont les victimes, les jeunes qui se trouvent physiquement au camp d'Angres. Alors donc, la dernière arrestation, hein, le dernier débarquement des forces de l'ordre, c'était le samedi 28 janvier. Hein, c'était en pleine fête du Tet. Une quarantaine de policiers sont débarqués la nuit, hein, sur le camp. Un hélicoptère tournait autour du camp afin d'éclairer les environs, hein, avec un projecteur pour fouiller les bois alentours. Il y avait également des chiens renifleurs. 10 personnes ont été arrêtées et embarquées. La plupart ont été libérées le lendemain. Alors, parmi ceux qui ont été arrêtés et gardés, il y avait notamment un jeune, Kim. Il a été enfermé à la prison de Sequedin, autrement dit, en quelque sorte traité comme un criminel, hein. C'est une chose qu'il n'a pas compris. Et à cette prison de Sequedin, il a fait une première tentative de suicide. Suite à cette tentative de suicide, hein, donc il a été estimé fragile psychologiquement, et il a été emmené en hôpital psychiatrique, hein, à Lille, où il s'est donné la mort le 31 mai à l'hôpital psychiatrique. Alors la première réaction qui nous vient suite au suicide de Kim à l'hôpital psychiatrique, ben c'est la rage, hein. La rage parce qu'avoir 25 ans, traverser la moitié du globe et venir mourir dans le nord de la France, c'est la rage qui domine. Rage aussi devant l'inhumanité capitaliste qui permet l'enrichissement de quelques-uns en échange de l'appauvrissement du plus grand nombre et pour ce qui est de Kim, en échange de la vie. Et enfin, rage également concernant le système carcéral qui broie les êtres humains. Alors à propos de ce système carcéral, ça nous rappelle ancienne chanson de François Béranger, une chanson qu'il avait appelée Prison. Je vais vous en citer quelques extraits, notamment la fin de cette chanson. Prison de François Béranger.
Je vis dans un pays et c'est aussi le vôtre où un gamin perdu a fleuri mes rogis. Pour un vol de bagnole se fait serrer la vis. Tellement la vis qu'il n'en peut plus. Un jour la coupe est pleine et on le retrouve pendu. Bon Dieu, quel beau pays, bon Dieu, quel beau pays.
Kim, lui, il n'était pas à Fleury-Mérogis, hein, il était à la prison de Séquedin. Séquedin, vous savez, c'est une de ces toutes nouvelles, toutes belles prisons modernes, hein, complètement déshumanisées. Il n'a pas été emprisonné pour un vol de bagnole, il a été emprisonné pour permettre à sa famille au Vietnam de s'en sortir en lui envoyant de l'argent. Et enfin, il n'est pas mort à l'hôpital, hein. Il n'est pas mort en prison, il est mort à l'hôpital, hein, après une première tentative de suicide en prison à Séquedin cette fois-ci. Et il a fini par réussir, entre guillemets, à l'hôpital psychiatrique. Alors on va conclure cette actualité enragée, hein, en indiquant que le collectif Fraternité Migrants, il est évidemment bouleversé par le décès de Kim, et il souhaite manifester sa solidarité, et notamment il vous propose de contribuer. Il y a une collecte qui est lancée sur le site litchi.com, L2ETCHI.com, en faveur de Kim, K-I-M. Donc on peut faire une recherche, hein, sur litchi.com en tapant Kim. Idéalement, l'objectif, c'est de rapatrier le corps de Kim au Vietnam. C'est une opération qui est très chère, hein, très onéreuse. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité de contribuer à cette opération financière, à cette collecte. Vous pouvez aussi contacter le collectif Fraternité Migrants, hein, qui, donc, je vous l'ai dit, se mobilise depuis très longtemps maintenant pour les migrants vietnamiens du camp de Angres. Donc le plus simple, c'est l'adresse internet, hein, fraternité.migrants@free.fr, donc migrants au pluriel, hein, fraternité au singulier, fraternite.migrants.fr. migrants@free.fr. L'actualité maintenant, c'est toujours sur le bassin minier et ça concerne cette fois-ci les Roms et notamment les familles serbes qui squattent des maisons des mines à Liévin. Alors le maire Laurent Duporge ne supporte pas ces familles en squat et a fait distribuer une lettre dans le quartier Saint-Albert où sont installées ces familles. Voici quelques extraits de cette lettre. Mesdames, messieurs, votre quartier vit une situation très tendue à la suite de l'installation de plusieurs familles serbes qui ont squatté des logements, maisons et cités sous Ginorpa. Cette situation est inadmissible, c'est en gras, hein. Cette situation est inadmissible car elle génère des troubles à la tranquillité publique et des problèmes d'hygiène de différentes natures. Je suis comme vous scandalisé, c'est encore une fois en gras, je suis comme vous scandalisé par le comportement de certaines associations qui aident les familles serbes à entrer dans ces logements condamnés, à ouvrir les compteurs d'eau et d'électricité, et qui, ensuite, les laissent livrer à elles-mêmes sans aucun accompagnement social, sans aucune solution durable. Ces squats donnent une mauvaise image de ces populations de ces associations et de votre ville, et je les combattrai, en gras, je les combattrai. À cet effet, j'ai demandé aux bailleurs Maisons et Cités d'engager immédiatement, en gras, hein, immédiatement, les procédures d'expulsion, ce qu'il a fait. Je sais qu'elles peuvent être longues avant d'obtenir le concours de la force publique. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout, en gras, je suis déterminé à aller jusqu'au bout, car même si j'entends la désespérance humaine de ces familles, je ne suis pas prêt à tout accepter, à tout excuser. Par ailleurs, lors d'une rencontre avec le bailleur social en présence des forces de l'ordre, j'ai exigé que les autres logements vacants soient parfaitement sécurisés afin d'éviter de nouveaux squats. Le bailleur s'est même engagé à installer des caméras et à faire appel à une société de gardiennage. Alors évidemment, les associations concernées, hein, ce sont Fraternité Rome, Médecins du Monde, Agir Ensemble pour un autre avenir. Et ces associations, suite à la distribution de ce courrier dans le quartier, elles sont consternées. Hein. On a là un élu de gauche, qui fait appel à la police pour expulser des pauvres, pour expulser des personnes démunies, et qui encourage la pose de caméras et l'appel à une société privée de gardiennage. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement fait réagir les associations. Alors le plus rigolo, si on peut parler ainsi, c'est la réaction de quelques militants, une réaction sous forme de canular. Ils ont publié un communiqué sur le site politis62.org en indiquant que le courrier du maire était un faux et que, en fait, c'était le Front National qui le diffusait. Voici le communiqué qu'ils ont publié. C'est bien connu, en campagne électorale, tous les coups sont permis. À Liévin, il semble bien qu'une nouvelle limite ait été franchie. On pensait que la pratique de se faire passer pour un autre était révolue, et jeudi 2 juin 2017, on découvre avec stupeur une nouvelle manipulation des équipes du Front National. De quoi s'agit-il ? Tous les habitants du quartier Saint-Albert découvrent dans leur boîte aux lettres le courrier que nous reproduisons ci-dessus. Il s'agit d'un courrier du Front National maquillé sous une lettre à en-tête de la mairie de Liévin avec, outrage suprême, la reproduction de la signature de Laurent Duporge, maire de Liévin et candidat aux élections législatives. La supercherie est évidente. Il suffit de lire en diagonale le courrier pour y reconnaître les arguments du parti d'extrême droite. Opposer les habitants et les habitantes de Liévin dont bon nombre vivent dans la précarité, et les familles roms serbes, qui vivent dans un dénuement extrême, voilà bien les méthodes haineuses du parti lepéniste. Nul doute que Laurent Duporge et son équipe de campagne sauront réagir. On s'attend à ce que le candidat lui-même distribue un courrier rectificatif dans lequel il affirme que la situation des familles liévinoises et des familles roms ne pourront être améliorées que dans le cadre de la plus large mobilisation de toutes et tous contre le capitalisme, fauteur de misère, d'exclusion, de haine. Solidaire des familles liévinoises et roms, Laurent Duporge va sans doute rappeler que, pendant que le FN jette les familles liévinoises contre les familles roms, c'est le patronat qui ramasse la mise et que, pour ceux qui le concernent, il se situe sans ambiguïté du côté des plus démunis contre les milliardaires, les patrons, les exploiteurs qui engendrent misère et reculs sociaux. Fin de citation. Eh bien, le plus extraordinaire, c'est que ce canular, il fonctionne. Plusieurs personnes ont effectivement cru que le courrier du maire de Liévin était un faux, diffusé par le FN et reprenant les arguments du FN. On aurait presque envie de dire que ça se passe de commentaires. Si au fond, ce n'étaient pas encore les mêmes qui allaient trinquer, les plus démunis, celles et ceux auxquels il est tellement facile de jeter la pierre pour éviter de prendre le problème de leur mise à l'écart et des inégalités à bras le corps. Voilà, cette actualité est terminée. Nous allons maintenant poursuivre ce micro-rebelle hebdo par un reportage dans notre série « Débattre la campagne ». Le reportage qui suit s'inscrit dans notre série d'émissions Débattre la campagne. C'est une série d'émissions que nous avons conçues depuis le début du mois de mars 2017, à l'occasion des élections législatives et présidentielles dans un premier temps. Donc aujourd'hui, nous sommes en période d'élections législatives, mais toute la série d'émissions Débattre la campagne, hein, aujourd'hui c'est la 11e émission, donc toute la série d'émissions Débattre la campagne a permis d'effectuer des reportages autour de différentes personnes impliquées dans ces campagnes des élections présidentielles ou législatives, ou impliquées tout simplement dans la vie politique, dans la vie militante. Hein. On n'a pas tenu absolument à avoir un rôle électoraliste. Hein. Au contraire, c'est plutôt un rôle d'éducation populaire, un rôle pour donner la parole à différentes formations, différents mouvements qui s'impliquent d'une manière générale dans ce qu'on pourrait appeler le politique. Alors pour cette 11e émission, hein, nous sommes diffusés à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, hein, nos amis de PFM que nous remercions toujours de leur collaboration, de ce joli partenariat entre Microrebelle et PFM 99.9. Et donc, à l'occasion de cette 11e émission, Microrebelle a planté son micro à l'occasion d'une réunion publique tenue par Lutte Ouvrière, une réunion publique qui s'est déroulée à Haine-Labassé. Alors dans un premier temps, pour cette émission, nous allons entendre des candidats et des candidates de Lutte Ouvrière. Donc notamment un candidat qui se présente dans la 12e circonscription du Pas-de-Calais. Donc c'est la circonscription qui va de Liévin jusque Violaine, en passant par Douvrin, par Bully-les-Mines, par Fethubert, donc une circonscription assez grande. Hein. Les circonscriptions en général ont à peu près 100 000 habitants. Donc c'est Régis Chenaert, hein, candidat Lutte Ouvrière sur cette circonscription de Liévin. Et puis deux candidats qui se présentent sur la 9e circonscription. Donc la 9e circonscription, c'est celle de Béthune et de Lillers. Voilà, donc nous allons dans un premier temps entendre Régis, Anne-Marie et Grégory, à l'occasion de cette réunion publique à Haine-Labassé, mise en œuvre par Lutte Ouvrière pour les élections législatives du mois de juin 2017. Je suis avec Régis Chenaert, hein, à l'occasion d'une réunion publique du parti Lutte Ouvrière, une réunion préparatoire aux élections législatives des 11 et 18 juin. Alors Régis, est-ce que tu peux, pour nos auditrices et nos auditeurs, commencer par te présenter ?
Alors, je suis candidat dans la 12e circonscription du Pas-de-Calais. Ça fait 30 ans que je milite à Lutte Ouvrière. J'ai été conseiller municipal à Liévin pendant 12 ans, de 2001 à 2014. Notre programme là qu'on défend aujourd'hui, c'est dans la continuité des élections présidentielles que Nathalie Arthaud a défendu. C'est un programme uniquement mise en place pour défendre les intérêts des travailleurs et que les travailleurs devraient s'emparer, c'est avoir des salaires qui permettent de vivre dignement, c'est 1800 euros net mini par mois, on ne peut pas vivre avec des salaires ou des pensions de 1000 euros, c'est l'interdiction des licenciements d'abord dans les entreprises qui font du profit. Peugeot, par exemple, c'est une entreprise là où je travaille qui a licencié depuis 3 ans 17 000 emplois.
On peut préciser que tu travailles à la Française de Mécanique. Hein.
Oui, tout à fait. Je travaille à la Française de Mécanique à Douvrin, dont d'ailleurs Peugeot a décidé de casser la taille et l'a divisé par 3. 17 000 suppressions d'emplois, encore 2 000 dans les tuyaux. Et puis dans les usines, on est de plus en plus crevés. On travaille avec de moins en moins de bras et les cadences augmentent. Elles sont infernales. Ça, c'est pas vivable. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu aujourd'hui. La Croix-Rouge dénonce aussi que les jeunes étudiants n'ont même pas ou il ne leur reste très peu d'argent pour survivre, à peu près 85 euros par mois pour survivre. Moi, je trouve ça inadmissible, franchement c'est révoltant et c'est toutes ces idées-là qu'on porte. On devrait avoir un meilleur niveau de vie dès qu'on commence à étudier, dès qu'on commence à travailler, et puis bien sûr en fin de vie. Aujourd'hui, il y a trop de travailleurs, trop de retraités. On le voit, on discute avec sur les marchés qui ont des pensions qui sont proches de 1 000, 1 100 euros en ayant travaillé 40 années de cotisation et plus. C'est inadmissible.
On peut estimer que finalement, c'est un retour vers le 20e, voire le 19e siècle.
On régresse parce que le patronat, il a à son service des politiciens qui ont été de droite sous Sarkozy, mais aussi de gauche, qui ont donné des coups de boutoir au monde du travail et puis qui continuent à être au service des capitalistes. Alors moi, avec mes camarades qui nous présentons dans 550 circonscriptions et plus, on dénonce partout cette politique-là et on dit aux travailleurs qu'il faut voter pour ce programme parce que de toute façon le changement ne viendra pas des urnes. C'est une assemblée qui est taillée sur mesure pour la bourgeoisie, pour les grands bourgeois. Et quand ils ont besoin de lois qui leur sont favorables, ils les font voter par les députés. Et quand il n'y a pas besoin de voter, ils les passent en force. On l'a vu avec le 49-3. Et là, Macron, ce qu'il prépare, c'est de les faire passer sous forme d'ordonnance. Donc il n'y a qu'une seule solution pour résister à ça, c'est la rue, c'est les manifestations, c'est le rapport de force.
Oui, alors effectivement, là tu évoques qui a le pouvoir. Donc c'est finalement, ce n'est pas l'Assemblée, c'est le pouvoir économique, c'est la bourgeoisie, c'est les détenteurs du capital, c'est le patronat.
Oui, c'est eux qui détiennent, c'est ceux, les sans-famille en France, c'est les muliers, les Drahi, c'est Leclerc, c'est toute la famille Bettencourt, etc., qui détiennent énormément de capitaux, qui s'achètent des politiciens comme ils veulent. On voit d'ailleurs encore avec les affaires qui sont en train de gêner le nouveau gouvernement Macron. Chacun a ses gamelles sérieusement. On voit qu'ils ont tous trempé et mis la main dans le sac. Bon, oui, c'est révoltant, mais ces gens-là, ils copient un peu les capitalistes. Ils se servent de l'argent public.
Alors tu évoques le gouvernement Macron. Donc effectivement, on sort de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui est président de la République. On a l'impression, quand on écoute les médias dominants, pas micro-rebelles, on a l'impression qu'il y a une unanimité un petit peu derrière Macron. Comment est-ce que tu vois un petit peu cette question ? Est-ce que c'est l'entente cordiale autour de Macron ? Comment tu vois ça ?
Alors, les grands médias, bon, la presse, les médias appartiennent à la bourgeoisie, aux bourgeois. C'est pas pour rien qu'ils se bagarrent souvent pour se les racheter. Maintenant, effectivement, on les entend tous dire que ce nouveau gouvernement va faire des efforts, va rassembler et donc va réformer, etc. Mais on l'a déjà vu, Macron, sous le gouvernement Valls. Il a cautionné des attaques contre le monde du travail. Il a cautionné la loi travail numéro 1 et il s'apprête à la passer en XXL, à massacrer le code du travail une nouvelle fois. C'est donner tout le pouvoir aux patrons locaux qui pourront faire déroger au code du travail, au salaire, au temps de travail. Ils pourront, et si les syndicats ne veulent pas signer, eh ben on fera des petits référendums en faisant du chantage aux salariés. On l'a déjà vu dans certaines usines, quand les travailleurs n'ont pas le moral, eh ben ils finissent par sacrifier une partie de leurs avantages. C'est ça que veut faire Macron. Ensuite, il s'attaquera aussi aux chômeurs, puisqu'ils sont incapables, tous les gouvernements, on l'a vu sous Sarko, 1 000 000 de chômeurs en plus, sous Hollande, 1 000 000 de chômeurs supplémentaires. Ils sont incapables et ils n'ont pas envie d'ailleurs d'entraver les patrons et de les interdire de licencier. Nous, on est pour interdire le licenciement, on est pour le partage du travail entre tous les salariés. Depuis l'après-guerre, la productivité au travail a été multipliée par 10 ou 20. On n'en a pas été bénéficiaire. Et ben, c'est pour ça qu'il y a des tas de chômeurs aujourd'hui. C'est parce qu'il y a beaucoup moins de travail. On produit de plus en plus vite. Et ben, ce travail-là, il faut le partager entre tous.
Alors, tu évoques la participation de Macron au gouvernement Valls. On peut rappeler, à titre d'exemple, cette première loi Macron, celle que tu as appelée la première loi Macron, c'est elle qui typiquement a largement autorisé le travail le dimanche. Ça fait partie de cette loi. Et puis ensuite, tu évoques la loi. Il y a eu des grandes manifestations l'année passée contre la loi El Khomri. Là, Emmanuel Macron sort des menaces de légiférer par ordonnance. Et puis on a l'impression quand même que les syndicats sont un peu timorés. Hein. Mailly de Force Ouvrière, lui, il dit qu'il ne fait pas de procès d'intention. Comme on dit, il attend de voir. Berger de la CFDT, lui, il accepte les réformes si elles lui semblent justes et comprises. Et même Martinez de la CGT, lui, il souhaite une concertation avec Emmanuel Macron. Alors comment est-ce que tu réagis à ça? Comment est-ce que réagit Lutte Ouvrière à finalement... une concertation qui s'annonce peut-être, je te laisse donner ton opinion, peut-être au détriment des travailleurs et des travailleuses.
Alors, mon opinion, elle est à la fois syndicale et politique, puisque je suis un militant syndicaliste. Oui, les dirigeants syndicaux, ils sont franchement en dessous de ce qui se passe aujourd'hui. On va se faire attaquer, c'est du lourd, je le répète, c'est des attaques sans précédent sur le code du travail, ensuite sur les chômeurs, ensuite sur les retraites, et puis par ordonnance, pendant l'été. Et puis les syndicats disent oui, ce gouvernement, c'est bien, il nous écoute, il communique, mais il faudrait un petit peu plus de temps. On pourrait pousser la discussion jusqu'au 21 septembre. Moi, je trouve qu'une régression sociale, ça ne se négocie pas. On va se faire attaquer si, franchement, les dirigeants syndicaux ont quelque chose à dire à leur base militante, c'est de dire qu'il faut se préparer à se défendre et il faudra le faire collectivement par les manifestations et par la rue.
Très bien, Régis, je te remercie. Donc peut-être rappeler que tu es candidat sur la 12e circonscription. Donc c'est une circonscription qui part de Liévin jusque Douvrin, en passant par Aisne-la-Bassée, jusque Violaine, Fétubert. Alors, comment ça se passe cette campagne? Bon, il y a ce soir cette réunion publique à laquelle nous assistons. Est-ce qu'il y a des rencontres avec des travailleuses et travailleurs, des rencontres dans les quartiers, des collages? Comment ça se passe une campagne électorale des élections législatives?
Alors pour Lutte Ouvrière, on fait des réunions publiques un peu partout. Ici c'est une locale à Aisne. On en fait aussi sur la côte d'Opale, près de Lille, aussi dans le nord bien sûr. Et puis principalement nos activités, c'est d'aller à la rencontre de la population travailleuse. Bien souvent le plus facile c'est les jours de marché, parce que les gens ont un peu de temps pour discuter en faisant leurs courses. On a quand même un bon écho. Beaucoup de gens comprennent notre discours, comprennent qu'on a envie d'en découdre avec ce patronat, n'y croient pas malheureusement qu'on pourrait changer la donne, parce que malheureusement beaucoup sont démoralisés. Il y a aussi des travailleurs qui ont voté Le Pen, mais je peux vous dire que quand on gratte, ils n'y croient pas. Le programme de Marine Le Pen, sauf bien sûr certains qui sont adhérents ou de militants depuis des années au Front National, beaucoup de travailleurs n'y croient pas que même si Le Pen passait au pouvoir, leur sort changerait. Bon, nous, tout ce qu'on a à dire, que de toute façon, sur ce sujet-là, c'est que le Front National, c'est un poison, c'est un ennemi mortel des travailleurs qui passe son temps à diviser. Travailleurs français contre immigrés, travailleurs qui ont du travail contre les chômeurs, les assistés, tout ça divisé pour mieux régner. On connaît le dicton, on sait à qui ça profite au patronat. Bon, en plus, on a entendu le Front National s'asseoir sur les promesses qu'elle avait fait déjà de mettre la retraite à 60 ans. C'était aussi pour rassurer les patrons que elle y croyait pas trop. Hein, voilà.
Un dernier mot, Michel. Donc tu es Régis, pardon, excuse-moi. Un dernier mot, tu es donc militant Lutte Ouvrière. Alors c'est important un parti comme Lutte Ouvrière.
Pour moi, oui, c'est important. Déjà parce que ça a donné un sens à ma vie. J'ai bien compris franchement, si on veut que ça change pour les travailleurs, il n'y a que le rapport de force, c'est la lutte. Et dans toute ma vie de travailleur. Même mon salaire, je me souviens quand il a fait un bond de 8 à 10%, c'est quand des travailleurs avaient lutté dans les fonderies Peugeot. Bon, et c'est mémorable. Et puis on avait réussi aussi à faire reculer Juppé en 95. C'est mémorable aussi. Je me souviens qu'à Lens, on avait encerclé Lens avec les cheminots, tellement il y avait de manifestants. Alors oui, si les travailleurs relèvent la tête, on a une force, on peut s'en servir. Et même si des lois sont votées, on peut les défaire. On l'a vu aussi avec Dominique de Villepin, avec tous les jeunes étudiants contre le CPE-CNE, on avait réussi à les faire reculer. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir un parti qui défend ces idées-là. On est peut-être un parti minoritaire, mais en tout cas, on porte haut notre drapeau et on est fiers de le faire.
Eh bien, écoute, Michel, merci. Excuse-moi, Régis, merci. Et puis, bonne continuation pour cette campagne électorale.
Merci pour m'avoir écouté. Merci.
Alors je suis maintenant avec Anne-Marie et Grégory. Alors Anne-Marie et Grégory sont candidates et candidats sur la 9e circonscription du Pas-de-Calais. Donc c'est la circonscription Béthune-Lillers. Anne-Marie est candidate et Grégory est suppléant. Alors je vais commencer par te demander, Anne-Marie, si tu es d'accord, de te présenter.
Je suis Anne-Marie de Flandre, j'habite à Aisne. Et je suis mère de famille.
Grégory ?
Alors, Grégory Laloux, je travaille à la ville de Aisne, donc j'ai bientôt 40 ans.
Très bien, et tu es par ailleurs militant syndicaliste ?
Oui, je fais du syndicat, donc syndicat des territoriaux du Pas-de-Calais.
Merci Anne-Marie, merci Grégory. Alors, peut-être Anne-Marie... Se présenter à une élection législative, bon, ça n'est pas banal, hein, malgré tout. Alors pour toi, quel est le sens de ta candidature, le sens des candidatures lutte ouvrière, mais le sens de ta candidature à cette élection législative ?
Ben, je crois que c'est de permettre de à des gens de qui vivent la réalité difficile du monde du travail, du chômage, de la précarité, de pouvoir mettre un bulletin dans l'urne qui exprime la réalité de leur vie, de leurs conditions. C'est d'abord ça, le sens de ma candidature.
Moi, ce serait plutôt pour vraiment se préparer à se défendre, à combattre, parce que là, on va se prendre des attaques, notamment du nouveau président, qui cache pas ses ambitions de vraiment faire mal avec une nouvelle loi de travail, etc. Et faut qu'on se prépare, faut qu'on discute autour de nous, qu'on se mobilise et se préparer à pas laisser passer tout ça.
Alors tu évoques, Grégory, justement le nouveau président Emmanuel Macron. Hein, quelle est votre analyse un petit peu de ce qui va se passer, hein? Tu évoques un peu des attaques qui vont être très dures. Emmanuel Macron, notamment, souhaite redonner beaucoup plus de liberté à l'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie pour des militantes et des militants de lutte ouvrière ?
Ben, liberté, oui, liberté au patron de faire encore plus de, ben, c'est ce que Grégory disait, hein, de faire des attaques encore plus dures à la population ouvrière, de pouvoir licencier plus facilement, de pouvoir oui, de faire que la vie des travailleurs soit encore plus difficile. Ce sera ça, quoi. Ce sera.
C'est surtout qu'il a déjà dit qu'il allait profiter de l'été pour faire passer très très vite de nombreuses lois et pour justement, comme dit Anne-Marie, favoriser la facilité des licenciements, réduire les indemnités, etc. Et si on laisse passer, si... lui, il compte bien là-dessus, sur le fait que, profitant de l'été, les travailleurs ne se défendent pas. Mais justement, on est quand même nombreux et de plus en plus nombreux à être conscients que faut pas que ces coups passent, parce que c'est vraiment la suite de ce qu'il a déjà fait avec dans le gouvernement Hollande, avec sa loi travail, avec la loi Macron, qui porte son nom d'ailleurs, sur le travail du dimanche. Et c'est que le début, parce que si ça passe, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête et le patronat demandera toujours plus.
Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Que doivent faire les travailleuses et les travailleurs ? Qu'est-ce qui doit se passer ?
Pour moi, il faut commencer par discuter, s'organiser, vraiment prévoir et réagir. Là, on n'a pas pour l'instant l'impression que les syndicats appellent à la mobilisation, et la base, elle peut bousculer parfois aussi les directions syndicales quand elles sont un peu trop frileuses à appeler à se défendre.
Bien, je te remercie Grégory. Alors peut-être pour revenir sur la campagne des législatives, hein. Bon, maintenant ça approche, le premier tour approche très vite. Comment ça se passe une campagne pour vous Qu'est-ce qui se passe? C'est des collages d'affiches, c'est des rencontres, c'est des distributions de tracts. Et bon, ce soir on a une réunion publique à Rennes, mais globalement comment ça se passe pour toi Anne-Marie?
Ben oui, c'est des collages d'affiches, distribution donc de tracts pour cette réunion ici. C'est aussi d'aller sur les marchés, d'aller sur, de faire du porte-à-porte aussi pour essayer de discuter avec les gens, pour essayer de qu'ils puissent s'exprimer sur leur situation, comment ils vivent les choses, ce qu'ils attendent des élections. Et puis d'essayer de voir peut-être que est-ce que vraiment élire un homme providentiel, est-ce que ça va changer vraiment notre sort? Est-ce que c'est ça qui va changer notre sort? Puis peut-être se rendre compte qu'il faudra peut-être justement retrouver le chemin des luttes, retrouver le pour si on veut vraiment que ça change pour nous, quoi.
Alors justement, puisque tu parles de ça, comment réagissent les gens, autrement dit, une militante lutte ouvrière comme toi qui fait un marché, qui fait du porte-à-porte pour discuter avec des habitantes ou des habitants ou des travailleuses et travailleurs, comment ils réagissent justement les gens? Comment est-ce que tu perçois la température que te retournent les gens?
Ben c'est vrai que dans un premier temps, on sent bien qu'ils ont pas, ils en ont ras-le-bol, quoi. Ils y voient plus clair, ils sont complètement dans la confusion, etc. Mais c'est vrai qu'en arrivant à discuter un peu avec eux, ils entendent des choses, le programme qu'on a, les perspectives, ça leur parle, quoi. On sent que ça leur parle, même si bon, ils disent pas qu'ils voteront forcément pour nous, mais quelque part ça, on sent que c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et ça les interpelle quelque part.
Très bien, j'avais une toute dernière question à te poser, Anne-Marie. J'ai rencontré beaucoup de militantes et de militants de lutte ouvrière qui étaient eux-mêmes très investis dans le monde du travail, hein, dans le monde syndical y compris. Toi, tu es mère de famille. Comment as-tu été amené à t'investir de cette manière-là? J'ai l'impression que ton profil, entre guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif, il est un petit peu un pas de côté atypique pour les militantes et les militants de lutte ouvrière.
Ben disons que si j'ai connu lutte ouvrière par des amis qui étaient à lutte ouvrière, qui étaient des collègues de mon mari, donc c'est comme ça que j'ai connu. Puis moi, le monde du travail, ça me concerne. J'ai des enfants qui vivent la difficulté aussi du travail, de ne pas être sûr d'encore avoir du travail dans un mois, deux mois, les salaires qui ne sont pas très élevés. Bon, ben, tout ça me concerne.
Très bien, je te remercie Anne-Marie, puis je te souhaite une très bonne et très belle campagne. Nous sommes toujours sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9 à l'occasion d'un reportage Débattre la campagne, une série d'émissions mises en œuvre par Microrebelle depuis le mois de mars 2017. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une réunion publique de lutte ouvrière à Aisne-la-Bassée. On vient d'entendre Régis, Anne-Marie et Grégory qui sont candidats de lutte ouvrière sur la 12e et la 9e circonscription. Hein, donc la 12e, c'est la circonscription de Liévin. La 9e, c'est celle de Béthune-Lillers. Et bien maintenant, nous allons entendre deux participants à cette réunion publique. Hein, on leur a posé la même question. On leur a demandé, toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as entendu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu retiens de cette réunion publique lutte ouvrière? On va maintenant les écouter tous les deux.
Je vais me présenter, hein. Je suis Eric, conseiller municipal à la ville de Salomines, membre du Parti communiste, d'accord. Donc je suis là pour découvrir un peu La lutte ouvrière, hein, déjà, ce qu'ils proposent, mais je trouve que leurs idées sont très bien. Au niveau lutte contre le patronat, non, mais c'est très bien. Franchement, moi, je m'y retrouve personnellement. Quoi dire de plus, j'adhère totalement à leurs idées politiques.
Merci Eric.
Mais moi, ce que je retiens de la réunion, c'est qu'on était là, quelques travailleurs, à ne pas vouloir se laisser faire et baisser la tête dans les mois et les années qui viennent. Parce que ce qui a été dit là, c'est que les coups, ils vont pleuvoir. Ça va être un gouvernement d'attaque contre les travailleurs, un gouvernement au service des patrons. Et c'est important que dès maintenant, on en ait conscience et on se prépare, on discute, on parle de tous nos problèmes entre nous. Parce que si on ne parle pas de nos problèmes, si on ne se rend pas compte que notre voisin, il a les mêmes problèmes que nous, eh ben, on ne pourra pas se défendre demain.
Ce reportage se termine. Nous sommes à Aisne-la-Bassée à l'occasion d'une réunion publique de lutte ouvrière qui présente ses candidates et candidats aux élections législatives et qui fait le point sur la situation politique consécutive à l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Donc cette émission s'inscrit dans notre série Débattre la campagne. C'est une série qui se prolonge depuis début mars 2017, une série que nous avons mise en œuvre à Micro Rebelle pour donner la parole à des mouvements, à des partis, à des associations impliquées ou non dans les campagnes présidentielles et législatives. C'est une série d'émissions qui se veut d'éducation populaire pour donner la parole à toutes celles et tous ceux qui s'impliquent directement ou qui se posent des questions d'une manière très, très large sur le politique, sur la politique aussi. Je vous rappelle que toute cette série d'émissions est en ligne. Vous pouvez les réécouter, les télécharger sur microrebelle.fr, dans notre onglet Débattre la campagne. Vous allez avoir l'ensemble des émissions qui sont disponibles, soit en écoute directe en podcast, soit en téléchargement, si vous souhaitez les emporter, les écouter ultérieurement. Alors la musique qui nous a accompagnés, c'est Lobo Loco et son album Candy Night. C'est le morceau que nous avons entendu tout au long de cette émission. C'est Twisting Kangaroos. Eh bien, je vous propose de nous quitter avec un nouveau morceau de Lobo Loco, du même album Candy Nice. Il s'agit de Funky Fake Fusion. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine, donc toujours sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. À très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien.